Chapitre 6. Le grand adversaire, Satan lui-même, était derrière toutes les attaques et les difficultés auxquelles l'Église primitive à Jérusalem devait faire face. C'est lui qui a poussé les Sadducéens à user de violence et d'intimidation. C'est lui qui a incliné le cœur d'Ananias au mensonge et a ainsi introduit la corruption, tentant l'Esprit du Seigneur. Mais maintenant que ses premières attaques ont été déjouées, il agit d'une façon plus subtile. Il va exploiter les petits différends qui existaient au sein de l'Église elle-même. Les hellénistes, mentionnés dans le premier verset de ce chapitre, n'étaient pas des gentils. C'étaient des juifs de langue maternelle grecque, venus des pays d'où ils avaient été chassés, tandis que les Hébreux étaient les juifs natifs de Jérusalem et de la Palestine. La première difficulté survenue à l'intérieur de l'Église, et la plus grande, celle causée par Ananias, était en relation avec l'argent. Si la deuxième ne concernait pas l'argent, elle touchait un domaine très proche, puisqu'il s'agissait de la distribution des ressources journalières, conséquence de la mise en commun de toutes choses. Dans le premier cas, le trouble provenait de la volonté d'amasser des biens. Dans le second, il venait de la répartition de l'argent ou de son équivalent. Ceux qui venaient de loin s'estimaient défavorisés par rapport aux indigènes. Le grave incident du chapitre précédent n'avait donné lieu qu'à une petite difficulté, car celle-ci avait été immédiatement réglée dans la puissance de l'esprit, tandis que les murmures peu importants de notre chapitre ont créé un très grand problème, comme nous allons le voir. Il en a presque toujours été ainsi dans l'histoire de l'Église. Les cas les plus difficiles à régler sont ceux où, à la base, il n'y a pratiquement rien à régler. C'est un murmure qui s'est élevé, mais les apôtres n'ont pas attendu qu'il se transforme en cri puissant. Ils discernent le but de Satan, qui était de les détourner de la prédication de la parole pour les orienter vers un service social. Aussi prennent-ils les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les objections. Ils invitent l'assemblée à choisir, pour s'occuper de cette affaire, cet homme qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse. Il fallait que leur service soit caractérisé par une sagesse et une honnêteté au-delà de tout reproche. Dans cette affaire, l'Église devait choisir ceux qui rempliraient ce service. Mais alors il s'agissait de la distribution de fonds et de nourriture qu'elle-même avait fournie. Nous ne voyons jamais que l'Église soit appelée à choisir ou à nommer des anciens, des surveillants ou ministres de la parole. En effet, les dons de grâce ou dons spirituels, dont ceux-ci font part, ne leur sont pas donnés par l'Église, mais viennent de Dieu. Leur désignation et leur ordination appartiennent donc à Dieu seul. Paul, s'adressant aux anciens d'Éphèse, leur dit « L'Esprit Saint vous a établi surveillant. Dieu désigne ceux qu'il appelle à administrer sa grâce. » Les apôtres continuent ainsi à persévérer dans la prière et dans le service de la parole. Pour ceux qui sont enseignés, c'est la parole qui vient en premier, voir 1 Timothée 4, verset 5. Car nous ne prierons correctement que dans la mesure où nous sommes instruits dans la parole. Pour ceux qui servent, la prière a la première place, car sans elle, ils ne présenteront pas fidèlement la parole. Tout comme la sagesse avait caractérisé les apôtres, la grâce l'emporte dans l'Église. En effet, les sept hommes choisis ont tous des noms qui trahissent une origine grecque plutôt que d'entre les Hébreux, et l'un d'entre eux est qualifié de prosélyte, ce qui sous-entend qu'il venait même d'entre les gentils. De cette manière, la multitude prenait soin de faire taire tous les murmures et toutes les questions, fondées ou non. Les apôtres s'identifient à ce choix, en imposant les mains aux sept hommes après avoir prié. L'adversaire derrière la scène était une nouvelle fois mis en échec. En fait, c'était plus qu'un échec pour lui. Non seulement les apôtres n'ont pas été détournés du service de la parole, mais celle-ci connut une forte croissance et il y eut de nombreuses conversions. Même une grande foule de sacrificateurs fut touchée. En outre, l'un des sept, Étienne, devint un instrument spécial de la grâce et de la puissance de l'Esprit de Dieu, à tel point que le reste de notre chapitre et tout le chapitre 7 nous relate ce que Dieu a opéré par son moyen jusqu'au moment de son martyre. La puissance opérant en Étienne est si manifeste qu'elle suscite de l'opposition dans d'autres endroits. Les hommes des différentes synagogues mentionnés dans le verset 9 appartenaient apparemment tous à la classe grecque, comme Étienne lui-même. Face à la puissance de l'esprit en Étienne, leur habileté à raisonner n'a aucun poids. Aussi ont-ils recours au stratagème habituel des faux témoins et de la violence. Au verset 11, ils placent Moïse avant Dieu, car ils savent bien ce qui est le plus apte à exciter les passions de la foule, pour laquelle Moïse, un homme, était plus réel que le Dieu invisible. De même, au verset 13, le saint lieu, qui était là devant leurs yeux, est mentionné avant la loi. Et enfin, les coutumes que Moïse nous a enseignées étaient probablement ce qui leur tenait le plus à cœur. Ils traînent alors Étienne devant le Sanhédrin et l'accusent de blasphémer et de présenter Jésus de Nazareth comme le destructeur de leur saint lieu et de leurs coutumes. Leur accusation avait ceci de vrai que la venue de Jésus avait effectivement marqué un nouveau départ dans les voies de Dieu. La controverse entre la nation et Dieu était ainsi portée en public. Ils jettent le gant et Dieu relève le défi en remplissant Étienne de son esprit au point que son visage est transformé et que tout le monde le voit. Par sa bouche, le Saint-Esprit va donner un dernier témoignage contre la nation. Le Sanhédrin est mis en accusation devant Dieu par le Saint-Esprit s'exprimant par l'homme même qu'ils accusaient.